France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, Apollon, fils de Zeus, était grand et fort. Il était le dieu tout-puissant qui, dans son immense temple de Delphes, pouvait révéler leur avenir aux mortels de toutes les conditions. Il pouvait inspirer de par le monde des devins ou des prophétesses qu'il contrôlait. Et comme dieu guerrier, avec son arc infaillible, il éliminait qui il voulait. Un dieu souverain de lumière et de terreur. Mais il pouvait aussi se faire avoir. De pauvres humains, des humaines en fait, pouvaient se rebeller, pouvaient le tromper, lui imposer des limites. Des femmes pouvaient ne pas céder à tous ses désirs et lui échapper. Et il était gros Jean comme devant, berné. Il gardait sa magnificence et sa cruauté et son éclat. Il était féroce dans sa réaction, mais plein de colère. Il devait admettre que tout ne lui était pas permis.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Ce n'est pas parce qu'on est puissant, parce qu'on est le porte-parole attitré des volontés de Zeus, son père, le dieu suprême. Ce n'est pas parce qu'on a vaincu un immense dragon et qu'on siège en toute lumière dans l'Olympe que l'on maîtrise tout. Les humains, parfois, peuvent dire non. Et la cruauté inhumaine du châtiment qu'ils reçoivent en dit long sur ce qu'est la supériorité des dieux, ces maîtres qui gèrent le monde et imposent leurs règles. Ces dieux peuvent être tellement inhumains qu'ils font, malgré eux, apparaître ce que l'humanité possède en propre et qu'ils n'auront jamais. C'est la triste histoire de la prophétesse Cassandre, qui a accumulé malheur sur malheur, mais qui a su en remontrer à son persécuteur, Apollon. Cassandre était une princesse troyenne, fille du roi et de la reine de Troie, Priam et Hécube. Elle était, nous dit Homère,
la plus belle fille de Priam.
La plus belle, c'est peut-être vite dit, car Homère, qui a tendance à répéter les mêmes expressions, dit la même chose d'une autre fille de Priam et d'Hécube, la belle Laodicée. Mais toujours est-il que Cassandre était splendide.
Pareil à Aphrodite d'or,
nous dit encore Homère. Fille du roi et de la reine de Troie, Cassandre avait de très nombreux frères et sœurs, sans compter les demi-frères ou demi-sœurs, le père. Le patriarche Priam était très fécond à gauche et à droite. Il était très fier de sa nombreuse progéniture et surtout de la masse de guerriers mâles qu'il avait engendrés.
J'ai engendré les meilleurs des fils dans la vaste Troie. J'en avais 50 quand sont venus les fils des Achéens. J'en avais 19 nés d'un même ventre. Les autres, les femmes les ont mis au monde dans le palais.
Cette fécondité sans entrave, avec son épouse Hécube et avec d'autres, dit bien la puissance de la ville de Troie, ville de la prolifération, de la richesse, d'un bonheur sans limite, mais ville en grand danger face aux agressions extérieures. À l'époque, on vivait beaucoup de piratage, de razzias. C'était la ressource économique principale. Les immenses richesses accumulées par Troie étaient donc très convoitées, d'autant que les Troyens pouvaient avoir tendance à aller chercher ces richesses sans trop demander leur avis aux propriétaires d'origine, ce qui suscitait de la rancune et des règlements de compte. C'est ce qu'a fait un prince troyen, Paris, qui est allé en Grèce enlever la plus belle femme du monde, Hélène, et une bonne partie des biens du mari trompé, le roi grec Ménélas, d'où la longue guerre de Troie, qui a tué tous les enfants mâles de Priam et d'Hécube. Les filles ont été déportées, violées ou tuées. Parmi les filles, Cassandre était celle qui comptait le plus. Les autres n'ont pas été chantées par les poètes, à part sa sœur, Polyxène, une autre malheureuse, qu'Achille voulait épouser. Il était même prêt à faire arrêter la guerre si son père Priam la lui accordait. Mais il a été tué avant. après la prise de Troie, son fantôme est apparu sur sa tombe et il a fait savoir qu'il voulait que les Grecs victorieux lui offrent Polyxène en l'égorgeant pour lui, ce qui fut fait. Cassandre avait l'immense privilège d'avoir reçu du dieu Apollon le don de la prophétie. Elle prévoyait, annonçait tout et ne se trompait jamais. Elle partageait ce don avec un frère, Hélénos, que l'on dit parfois être son jumeau. Une légende raconte que le frère et la sœur, Hélénos et Cassandre, ont reçu le don de prophétie juste après leur naissance. Leurs parents, Hécube et Priam, les avaient laissés une nuit dans le temple d'Apollon. Des serpents sont venus, les ont léchés et leur ont transmis l'art des devins. Comme on sait, les serpents, ces êtres terrestres rampants, ont à voir avec l'art de la divination. Ils sont des enfants de la terre. Or, la terre, la déesse féconde, a été la première prophétesse. En faisant naître des générations nombreuses, elle ouvre le temps qui se déploie à partir d'elle. Un enfant à elle, un serpent, occupait le site où le dieu prophète Apollon a implanté son sanctuaire, à Delphes. Apollon a tué cette bête pour prendre sa place. Mais Delphes, le lieu prophétique par excellence, reste à jamais marqué par la présence de cet enfant de terre. On dit d'Hélénos qu'il est devenu un spécialiste hors pair des oiseaux. Il comprenait les signes divins qu'ils envoient en volant dans le ciel. Il pouvait aussi entendre directement dans son cœur ce que les dieux se disaient entre eux. Ça servait beaucoup dans les batailles. Hélénos pouvait savoir de quel côté penchaient les dieux. Pour Cassandre, on ne sait pas quelle technique elle employait quand elle prophétisait. On sait seulement qu'elle était en communication immédiate avec le dieu Apollon et pouvait révéler l'avenir. Ce privilège a été son malheur. L'histoire de Cassandre est glaçante. Hélénos, lui, s'en est plutôt bien tiré. Il a survécu à la prise de Troie. Il avait été fait prisonnier avant. Et ses prophéties ont même aidé les Grecs en leur révélant les conditions que les dieux mettaient à leur victoire. Il a vécu en Grèce et a fini par épouser Andromaque, la veuve de son frère Hector. La vie de Cassandre fut infiniment plus triste.
Elle s'appelle Cassandre, la fille du roi Priam.
Tu veux dire la putain du roi Agamemnon ?
On dit que par instant, le délire prophétique s'empare d'elle et qu'elle voit ce qui n'a pas encore eu lieu.
Oui, oui, elle est rongée par la fièvre et les maladies vénériennes, la catin qui a vu défiler toute l'armée des Grecs entre ses cuisses. Allons filer à la cuisine ou à l'étable. C'est là ta place désormais. Déjà dans la maison, les victimes sont prêtes, le feu s'allume, le couteau s'aiguise. Elle aura son tour, après.
C'est en rêvant que j'ai vu le vent grimacer devant les morts célébrant notre futur arrivé. Regarde les impatients. Dans l'au-delà, serai-je
Pierre Judet de Lacombe raconte la triste histoire de Cassandre qui a résisté au dieu Apollon.
Apollon, comme souvent, s'est mis à désirer sa prophétesse. On sait qu'autorité religieuse et emprise sexuelle peuvent aller ensemble. Les victimes ne s'en remettent pas. Cassandre fait allusion à cette histoire dans une pièce du poète Eschyle, Agamemnon. Cassandre, chez Eschyle, est pudique, discrète. Elle a honte de ce qui lui est arrivé et elle sait qu'elle vit les derniers moments de sa vie. Ça ne vaut pas la peine d'en faire trop. Les faits vont parler d'eux-mêmes. La brutalité du dieu Apollon apparaîtra dans toute sa cruelle simplicité. Cassandre parle face à un cœur de vieillard. Ils sont compatissants. Ce sont des Grecs, des citoyens de la ville d'Agamemnon, où Cassandre a été amenée de force après la chute de la ville de Troie. Elle est arrivée en prisonnière dans cette ville. Et spontanément, sans que personne ne lui ait rien demandé, elle se met à raconter le passé et l'avenir de cette ville. Le cœur est stupéfait. Il se demande d'où elle, l'étrangère, tire cette connaissance. Elle répond que c'est Apollon qui l'inspire. Mais elle ajoute que cette histoire la gêne profondément.
Je m'étonne que toi, grandi de l'autre côté de la mer, tu saches raconter les histoires d'une ville parlant une autre langue, comme si ta place avait été ici.
Apollon le devin m'a imposé ce rôle. Avant ce jour, j'éprouvais de la honte à raconter cela.
Quand il entend le mot « honte », le cœur comprend tout de suite qu'il s'agit d'une relation amoureuse, que Cassandre a été l'objet du désir du dieu. Mais pour le cœur, éveiller le désir d'un dieu est plutôt une chance, une bonne chose. Cassandre n'a pas à faire de chichi. Le dieu l'a choisi, c'est un privilège. Et céder à son désir n'est pas un déshonneur, mais une grâce divine. Cassandre répond qu'il ne s'agit pas de cela, mais d'une tentative de viol. Le dieu a été un lutteur, une brute.
Voudrais-tu dire qu'il était frappé du désir de toi, tout en étant dieu? C'est quand nous vient plus de bonheur que tous, nous faisons le délicat.
Mais non, il était un lutteur haletant d'amour sur moi.
Le cœur ne comprend pas. Il veut savoir si tout est allé normalement.
Mais êtes-vous tous les deux allés jusqu'à l'acte de procréation selon la norme?
La réponse de Cassandre est stupéfiante d'audace et de simplicité. Elle a dit oui, elle a accepté, puis elle a dit non. Le dieu l'a cru, puis il a été floué. Le cœur lui demande si à ce moment, elle était déjà à son service, si elle était déjà sa prophétesse. Eh bien oui, Cassandre était donc en pleine rébellion contre son maître.
Mais êtes-vous tous les deux allés jusqu'à l'acte de procréation selon la norme?
En disant oui, j'ai menti à Apollon Loxias.
Étais-tu prise déjà par le métier inspiré?
Déjà, aux gens de la ville, je révélais toute leur souffrance.
Mais alors, demande le cœur, comment le dieu a-t-il réagi? Comment a-t-il fait payer sa tromperie à Cassandre? En faisant en sorte que personne, désormais, ne croira à Cassandre.
Mais comment pouvais-tu rester intouché par la colère d'Apollon Loxias?
Je ne persuadais personne de rien, après avoir commis cette faute.
Et de fait, Cassandre ne sera plus jamais crue. Elle annoncera la prise de Troie. Elle révélera que le grand cheval de bois que les Grecs ont laissé sur la plage contient des guerriers avides de meurtre. Personne ne la croira. Elle parlera pour rien.
Troie va brûler?
Pas de question si tu ne veux pas de réponse.
Eh bien, Cassandre, y a-t-il une réponse?
Pendant 10 ans, les Grecs vont piller notre pays, attaquer nos portes. Pendant 10 ans, ils dévaliseront les rives du sud, asserviront nos voisins, s'engraisseront en massacrant leur bétail, s'enrichiront de leurs dépouilles, et nos amis s'enfuiront d'ici. Ils s'enfuiront d'ici, jusqu'à ce que nos murs abritent un peuple abattu. Notre cité, une foule morose, nos rues pavées de larmes. Puis il n'y aura plus rien à manger, plus d'eau à boire, ni d'air à respirer.
Cassandre, tais-toi!
La guerre continuera jusqu'à ce que la malédiction disparaisse. Vous le savez, comment ne pas le comprendre? Pourquoi ne pas me croire?
Parce que ma fille, on doit ne pas te croire.
Mais comment a-t-elle pu tromper Apollon? Comment le dieu s'est-il fait avoir? Le dieu est violent, empressé, désirant. Cassandre, qui était déjà sa prophétesse, se défend en changeant de registre. Elle oppose sa parole à la violence physique d'Apollon. Elle dit qu'elle est consentante, mais ce consentement n'est que de façade. Apollon, qui n'est pas seulement une brute, mais qui est aussi le dieu de la parole vraie, le dieu absolument véridique, ne peut que croire sa prêtresse, puisque c'est lui, Apollon, qui lui a appris à dire le vrai. Le dieu croit qu'il y a un accord entre lui et Cassandre. Mais au dernier moment, Cassandre prétend qu'elle a changé d'avis. Elle dit non. Elle dit qu'elle a menti. Elle ne veut pas. Or, le dieu l'avait cru. Il a été floué. Sa fureur va se traduire par une longue persécution. Cassandre sera toujours sa prophétesse. Elle sera toujours inspirée par lui. Mais elle parlera pour rien. Personne ne la croira. Puis, réduite en esclavage par les Grecs, elle sera sauvagement tuée. Selon une autre version qu'on lit dans des textes de l'Antiquité, Apollon aurait donné le don de la prophétie à Cassandre, non pas à sa naissance, mais pour la récompenser d'avoir d'abord dit oui à sa demande amoureuse. Puis, elle se serait rétractée. Les deux versions existent. Eschyle, le poète, a préféré l'autre version, qui fait de Cassandre une inspirée dès son enfance. La vie de Cassandre a enchaîné les malheurs, comme prophétesse et en amour. Elle prévoit tout, annonce tout, mais elle ne peut rien contre ce que les dieux ont décidé.
Vincent Delcroix, philosophe.
La description de l'avenir est toujours à la fois une possibilité rêvée et qu'elle n'est jamais entendue. C'est-à-dire qu'il y a bien là, même quand des mortels exceptionnellement possèdent un savoir, cette parole-là ne peut pas franchir un certain état du savoir, elle ne peut pas être comprise. C'est-à-dire qu'on peut le dire, mais cette parole ne fonctionne pas sur un régime normal de discours.
Donc en somme, la clairvoyance de Cassandre se heurte à la surdité de ceux à qui elle s'adresse.
Elle est annulée. Mais dans le contexte dans lequel s'énonce cette parole, ce qui est surtout significatif, c'est que plus la parole apparemment a du sens, moins elle en a pour ceux qui l'écoutent. Elle est saturée de sens parce qu'elle dit le vrai, elle dit ce qui va se passer, mais en même temps, ce sens est totalement impuissant. C'est-à-dire qu'il n'est jamais compris.
Un jour, elle voit arriver dans la ville de Troie un jeune homme qui descendait de sa montagne, un vacher. Personne à Troie ne le connaissait. Elle, inspirée par le dieu, comprend tout de suite de qui il s'agit. Elle reconnaît un de ses frères, Paris, qu'elle n'avait jamais vu. Paris était un enfant maudit. Il était le fils du roi et de la reine, de Priam et d'Hécube. Mais avant d'accoucher, Hécube avait fait un cauchemar. Elle avait rêvé que l'enfant qui allait naître avait 100 bras et portait des torches. À peine né, il se met à incendier le pays de Troie. Des savants sont consultés, des interprètes officiels des rêves. Ils disent tous qu'il faut à tout prix se débarrasser du bébé à sa naissance. C'est ce que fait Hécube. Elle confie l'enfant à un berger, avec l'ordre de l'exposer sur les pentes de la montagne Ida, où courent de nombreuses bêtes sauvages qui vont dévorer le petit. On faisait comme ça à l'époque. Œdipe, nouveau-né, a subi la même mésaventure. Le berger exécute l'ordre, abandonne l'enfant, mais une ours vient le nourrir. Ému, le berger adopte le nourrisson. C'est Paris, qui 20 ans après, ignorant tout de son origine, revient dans sa ville natale. L'ironie est qu'il revient à l'occasion d'une fête. Hécube, la mère, était tellement triste d'avoir abandonné son enfant qu'elle croit mort, qu'elle décide d'organiser pour lui, pour sa mémoire, des jeux funèbres, 20 ans après. Paris, bien vivant, vient participer à ces jeux organisés en fête, en son honneur, sans qu'il le sache. Il gagne toutes les épreuves. Cassandre, qui n'avait jamais vu son frère, elle était née après lui, identifie immédiatement Paris. Elle se met en transe et déclare qu'il sera la ruine de Troie, comme l'annonçait le cauchemar d'Hécube. Personne ne la croit. Elle s'en plaint amèrement.
Apollon a fait que je prophétise dans le vide. Ceux qui ont souffert, qui sont à terre dans le malheur, m'appellent sage. Mais avant qu'on ne souffre, je passe pour folle.
Le berger confirme bien que le jeune inconnu est le fils du roi et de la reine. La vieille mère est trop heureuse de retrouver son fils qui réintègre sa famille. Le poète Euripide raconte cette histoire dans une tragédie dont nous n'avons que des bribes. Alexandros, c'est le deuxième nom du prince Paris. On connaît la suite. Paris va enlever Hélène et à cause de lui va commencer une guerre interminable qui se finira par l'incendie de Troie. Cassandre avait tout dit, mais ça n'a servi à rien. La guerre éclate, se prolonge. Un jeune homme, beau et fort, arrive à Troie et prétend qu'il débarrassera la ville de ses ennemis grecs qui ont débarqué et font des ravages. Séduit par l'immense beauté de Cassandre, il demande comme prix de son action libératrice la main de Cassandre. Priam la lui accorde et ce fiancé sera tué sans avoir pu chasser les Grecs. La noce n'aura pas lieu.
Le roi de Crète, Idoménée, tua Othryoneus, un habitant venu de Cabessos. Arrivé de peu, il cherchait la gloire guerrière. Il avait demandé, sans rien offrir, la plus belle fille de Priam, Cassandre. Mais il promit un grand exploit, chasser de Troie, malgré eux, les fils des Achéens. Le vieux Priam promit et d'un signe de la tête s'engagea à la donner. Il se battait, confiant dans les promesses. Mais Idoménée le visait de son bois brillant. Il fit mouche, le frappa alors qu'il marchait haut. Sa cuirasse de bronze ne suffit pas. Le trait se planta en plein ventre. Il tomba, fracassant.
La guerre se prolonge. Ulysse trouve une solution pour y mettre un terme. La ruse du cheval de Troie, bourrée de guerriers grecs. Les Grecs font semblant d'abandonner leur campement. Ils sont partis et ont laissé sur la plage cette immense construction de bois. Les Troyens se demandent ce qu'ils doivent faire. Brûler cette machine ou y voir un bonheur. Un don des dieux, signifiant la paix.
Qu'est-ce que c'est ? C'est une offrande. Nous devrions l'installer au temple de Poséidon.
Mon père, brûle-le.
Pardonne-moi, mon roi, mais sans vouloir être irrespectueux, je veux éviter de voir un seul autre fils de Troie s'attirer les foudres des dieux.
Cassandre se met en colère. Elle révèle que le cheval de bois contient des guerriers prêts au massacre. Mais comme d'habitude, personne ne la croit. Le cheval est introduit dans la ville. Les Troyens, ivres de joie, font la fête, puis au milieu de la nuit, le cheval s'ouvre, et c'est la curée. Le massacre commence. Un jeune et beau Phrygien, appelé Choreb, Choroibos en grec, était venu combattre avec les Troyens parce qu'il était amoureux de Cassandre. Lors de cette nuit horrible, il veut protéger Cassandre, qu'il voit menacée par les guerriers grecs en fureur. Elle peut se sauver, momentanément, mais ce Choroibos est tué par Diomède, ou par le fils d'Achille, Neoptolème, selon les versions. Avant de mourir, il a le temps de déclarer son amour à Cassandre, qu'il accepte, et ce nouveau fiancé meurt devant elle. Encore une fois, la noce n'a pas lieu. Francesco Cavalli, musicien de Venise, a fait chanter cette scène dans son opéra La Didone, de 1641. Le poète Pusenello fait parler les deux amoureux séparés, à peine réunis.
Choreb, je fus. Mais le sang qui sort de mes veines inscrit Choreb au nombre des ombres. Ô Cassandre, Cassandre, pour toi seul je suis venu à Troie et j'ai livré mon esprit au pouvoir de tes yeux. J'ai cherché à te plaire par mes hommages et j'ai fait de mon âme énamourée l'étrier de tes grandeurs. Mais je trouve sur le chemin de l'amour l'obstacle de la mort. Et sous l'orient de tes yeux pleins de vie, mes jours ont leur glorieux crépuscule. Face à mon aube pure et fleurie, ma vie est au couchant.
Si ma main, ô ami, te console et t'agrée, prends-la, je t'en fais libre don. Honnêteté virginale, pardonne-moi.
Ami, je pars, hélas. Cassandre, je te laisse. Prends de ton Choreb, ô mon idole, l'ultime mot, l'adieu moribond.
L'âme faible s'évanouit, la vie, hélas, est expirée. Choreb, ô Dieu, est mort et m'a laissé seul. Il me voulait pour épouse, et moi ici je pleure. Avant d'être épouse, veuve, je demeure. La vie est ainsi.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
shaped pillow, willow tree. The ground is talking over me. I have them photographs I'll never delete. It got you captured before you were defeated. Lower your expectations of me and you will see that everything was meant to be.
Pierre Judet de Lacombe raconte comment Cassandre prévoit et affronte sa mort.
Les malheurs de Cassandre ne sont pas finis. Elle s'est réfugiée dans le temple d'Athéna, dont elle étreint la statue. Ce devrait être un refuge sacré, inviolable. Cassandre devrait être intouchable, mais un Grec sans scrupules, violent, l'arrache brutalement à la statue d'Athéna. Ce Grec est Ajax, pas Ajax le Grand, le guerrier à l'immense bouclier qui est mort, mais Ajax le petit, le guerrier rapide, empressé. Là, il y a deux versions. Selon l'une, Ajax, en tirant à lui brutalement en Cassandre, aurait arraché de son socle la statue d'Athéna. C'est un sacrilège. Les Grecs auraient voulu le lapider pour cela, mais, ironie, Ajax serait réfugié auprès de l'autel d'Athéna et aurait été sauvé. Selon l'autre version, plus dure, Ajax aurait abusé de Cassandre dans le temple d'Athéna. La statue de la déesse, horrifiée, aurait détourné les yeux. Toujours est-il qu'Athéna était furieuse et a fait payer sa violence à Ajax. Elle a demandé à Poséidon de déclencher une tempête lors du voyage de retour des Grecs. Ajax a péri. Les malheurs continuent. Agamemnon est à son tour tombé amoureux de Cassandre. Il exige de la voir comme captive. Et il l'emmène en Grèce, sur son bateau. Elle devient son amante, si le terme est juste. Arrivé chez lui à Argos, Agamemnon est fier de sa conquête. Il demande à son épouse, Clytemnestre, de prendre soin de la jeune et belle prisonnière. Eschyle, dans sa tragédie Agamemnon, fait un portrait très peu flatteur de ce gros balourd de roi, si content de lui.
L'étrangère qui est ici accueille là avec amitié. Quand le maître est doux, le dieu le contemple de loin d'un œil amical. En effet, personne ne connaît de bon cœur le joug des esclaves. Elle, c'est la fleur choisie parmi mille richesses, le don de l'armée, qui m'a accompagné.
Le pauvre, il ne sait pas que son épouse Clytemnestre n'attend qu'une chose, le tuer, quand il sera entré dans son palais. Elle vengera ainsi l'acte horrible qu'a été la mise à mort de leur fille, la jeune Iphigénie, il y a 10 ans. Agamemnon, le général en chef de tous les Grecs, avait accepté de la sacrifier en l'égorgeant devant toute l'armée, parce que la déesse Artémis l'exigeait. Sans cet acte, l'armée n'aurait pas pu partir pour Troie. Agamemnon a cédé et il est devenu le meurtrier de sa fille. Il va le payer lors de son retour après sa victoire sur Troie. Clytemnestre en profite pour supprimer aussi la maîtresse de son mari, Cassandre, la chanteuse d'oracle. Elle réunit les deux amants dans le même meurtre. Cassandre est parfaitement au courant. Elle sait qu'elle doit mourir. Avant d'entrer dans le palais, comme Clytemnestre l'y invite sans ménagement, elle reste longtemps silencieuse. Puis, elle fait éclater un cri de deuil, pour elle, un cri qui accuse Apollon. Le cœur des vieillards qui l'entend ne comprend pas.
« Autototoi, popoïda, la mort, la mort, la mort, la mort, hélas, ici, ô Apollon, ô Apollon !»
À nouveau, elle blasphème en appelant le dieu qui ne doit à aucun titre présider aux pleurs.
Apollon, Apollon, dieu de la rue, mon Apollon destructeur, car sans fatigue, une seconde fois, tu m'as détruite.
À ce qu'il semble, elle va prophétiser sur ses propres malheurs. Le divin reste présent dans un esprit, même quand il est esclave.
Apollon, Apollon, dieu de la rue, mon Apollon destructeur, horreur, où m'as-tu amené, dans quelle maison ?
Chez les Atrides. Si toi, tu n'en as pas conscience, moi, je te le dis, et tu n'en parleras pas en te trompant.
Cassandre appelle Apollon son destructeur en jouant sur les mots. Le nom Apollon sonne exactement comme une forme du verbe détruire, Apollumi. Si on met ce verbe au participe, on a Apollon, le détruisant. Cassandre est sûre que c'est bien Apollon, son maître, son persécuteur, qui l'a conduite jusqu'à cette maison où elle va être tuée. Devant la porte de cette maison, il y a comme souvent une statue du dieu censé protéger l'habitation. Là, le dieu la nargue et indique le terme de son voyage. Le cœur ne comprend pas. Il précise pour Cassandre le nom des propriétaires, les Atrides. Mais Cassandre a bien repéré que c'est une maison sanglante où on n'a pas arrêté d'égorger depuis des générations.
Horreur, horreur, dis plutôt une maison qui hait les dieux, confidente de tant d'histoires. Malheur des meurtres entre soi, cordes de pendaison, égorgeoir d'hommes, vase de sang aspergeant le sol.
Cassandre est prise par une série de visions. Elle voit les crimes commis dans le passé. Elle voit le crime à venir qu'accomplira Clytemnestre contre son mari, qu'elle va tuer dans une baignoire.
Tristesse, la misérable, tu accomplis cela. Cet époux, l'homme de ton lit, dans les eaux du bain, le rendant lumineux, comment dire la fin ? Car elle sera vite et elle lance une main après une autre main, avidement.
Le cœur ne la croit pas, mais Cassandre insiste patiemment. Elle lui explique ce qui va se passer dans un langage de plus en plus clair. Pour la première fois, Cassandre enfin sera crue. Mais elle qui prévoit tout, qui prévoit sa mise à mort imminente, elle renonce à sa fonction de prophétesse, fonction qu'elle déteste puisqu'elle l'a conduite à la mort. Elle défie encore le dieu, elle se débarrasse de tous ses attributs sacrés de servante du dieu, son sceptre, ses couronnes.
Allez au néant, c'est votre chute. Je vous échange contre un bien. Allez enrichir un autre désastre au lieu de moi. Regarde. Apollon lui-même me dévait de l'habit oraculaire alors qu'il me contemplait dans ses parures, même quand, parmi mes amis, j'étais par mes ennemis ridiculisé absolument pour rien. Et comme une égarée des rues, je supportais les noms de mendiante, misérable, crève la faim. Et aujourd'hui, le devin venant à bout de moi, le devin m'a mené à de telles circonstances de mort. Au lieu de l'autel paternel, la table du boucher m'attend, rouge d'un chaud égorgement.
La vie humaine, finalement, est peu de choses.
Tristes choses humaines. Qui est heureux ? Une ombre le renverse. Et si l'on est malheureux, une éponge humide, par ses attaques, détruit le dessin. Ceci me fait pitié, beaucoup plus que cela.
Avoir été la prêtresse d'un grand dieu ne change rien. Le dieu jaloux, mesquin, cruel, inhumain, a au moins donné à un être humain, Cassandre, la possibilité de parler librement contre lui.
quand les dieux rôdaient sur la terre.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesset. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. Bonne journée sur France Inter.